Je me lève pas chaque matin en me disant je suis européenne.
Quand j'ai démarré l'écriture de cet épisode, j'ai voulu comprendre le lien entre ce qu'on appelle les périphéries, ou l'extérieur du périph' quand on est à Paris, et la citoyenneté européenne. Et le constat, c'est qu'il n'existe quasiment aucune littérature, aucune recherche, sur le sujet des banlieues et de l'identité européenne. C'est fou, non? Comme si l'Europe s'arrêtait à ses capitales, Paris, Bruxelles, Berlin, Rome ou Varsovie. Banlieusards et européens. Est-ce seulement possible? Quand les politiques ne s'intéressent à vous et à votre quartier que lorsqu'il s'agit de parler de sécurité, de laïcité ou de pauvreté, comment penser à l'Europe? Quand aller à Paris est une expédition, comment imaginer l'Europe? Quand on questionne même votre identité française, comment se sentir européen ou européenne? À travers le portrait d'Ayat, c'est le portrait de tous ces jeunes assignés à résidence, comme l'écrivait Salomé Berliou dans son livre « Les invisibles de la République » qui se dessine. Je m'appelle Laetitia Chaban et vous écoutez Europe et sentiments. Ayat, portrait d'une trappiste, partie 2.
Ma famille vit toujours ici. En tout cas une partie. L'autre est dans les villes juste à côté. Je pense que dans Attrape, tout comme d'autres villes, il y a assez peu de mobilité. On a très peu de gens, en tout cas en banlieue parisienne, on a très peu de gens finalement qui vont à l'autre bout de la France une fois qu'ils ont leur diplôme. On n'est pas du tout... c'est pas du tout dans la culture, je dirais, la culture locale. Oui, en termes de mobilité, moi, à titre personnel, par exemple, j'ai pas été à Paris avant mes 18 ans. Alors qu'on est à 30 km de Paris. On a deux lignes de train. Par contre, effectivement, on n'a pas de métro, on n'a pas d'RER, etc. Ça freine quand même. Ça freine pour la question de l'accès aux loisirs et à la culture. Pour aller au Louvre, c'est une expédition. Hein. et même sans aller au Louvre, tout n'est pas ici, en fait. Tout n'est pas ici. Même si vous voulez prendre un café tranquillement avec des copines... Il n'y en a pas ici. Vous allez avoir un café dans le centre commercial des Merisiers, mais bon, c'est pas trop... c'est pas le coffee shop sympa avec la musique, en mode Starbucks et compagnie. On n'est pas du tout... Là, on n'est plus sur des bars, bar-tabac, PMU, et c'est pas forcément... C'est pas forcément inclusif. Voilà, donc pour la mobilité, je pense que ça peut être un... c'est un gros frein. Et je développe pas mal dessus là, parce que je pense qu'il y a un vrai sujet de... Je pense en lien en fait avec la question aussi de l'identité européenne en fait. Quand déjà on se sent même pas invité, bienvenue à Paris, alors vous imaginez l'Europe. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir les moyens en fait de se permettre d'être dans une génération EasyJet. Moi j'ai commencé à voyager à partir de 23 ans. Donc vous voyez ce que je veux dire, à un moment donné... Même ça, c'est un luxe. Même si on a l'impression que c'est facile, ça ne l'est pas du tout pour la plupart d'entre nous. Mis à part, effectivement, les programmes Erasmus, mais même les programmes Erasmus, ça présuppose quand même d'être en université, d'être informé, de faire certaines démarches et d'avoir aussi l'aval de sa famille, parce que souvent aussi, tout le monde n'est pas OK pour envoyer son enfant... dans un autre pays et il y a aussi l'aspect culturel qui entre en jeu. Quand on fait partie de ces territoires populaires et qu'on est issu d'une immigration, peu importe la génération, déjà on nous questionne même sur est-ce qu'on est français. Alors est-ce qu'on est européen? Vous voyez à quel point c'est un autre niveau en fait. Et en fait, finalement, on n'est jamais questionné sur ça. On nous demande jamais est-ce que vous êtes européen, on nous demande est-ce que vous êtes français, au final. Alors que c'est par le questionnement, justement, qu'on s'interroge et qu'on se dit « Ah oui, je suis française, je suis européenne, ou je suis pas ceci, je suis pas cela. » Mais en fait, rien ne coule de source. Et en fait, là, je me suis rendu compte que le seul endroit où finalement on me questionne sur est-ce que je suis française, par exemple, bah, c'est en France. Alors que quand vous allez aux US ou au Canada, on vous considère comme French. On vous demande même pas, mais oui, mais French et quoi d'autre ? Et je pense que pour le coup, c'est aussi intéressant parce que quand on y réfléchit, jamais à l'étranger, enfin hors Europe, on m'a dit t'es européenne. Bah, ce que je veux dire, c'est qu'une identité, ça se construit aussi en différence, en contact d'une autre identité. Et qu'en fait, finalement, ni en interne, enfin en interne, au sein de l'Union européenne, ni quand on est face aux autres, on nous considère comme étant européen. On va toujours vous identifier à un pays. Pas... Moi, personnellement, j'en suis convaincue. Je pense qu'il y a un vrai sujet. S'il y a autant de crispation sur... À partir du moment où, à chaque fois, on parle de... Quand on parle de différence, on est obligé de remettre en question votre identité française. C'est qu'on, enfin, c'est que votre identité française, elle est fragile. On l'a vraiment, enfin, moi, je l'ai vraiment vu en tant que justement femme issue d'une immigration, etc. En fait, on et dans les débats qu'on voit, c'est partout. Hein, on a l'impression que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on peut être deux, enfin, qu'on peut avoir une culture, j'en sais rien, moi, asiatique, maghrébine et compagnie, et en même temps se sentir française à part entière. Pour beaucoup de gens encore, c'est très complexe. Pour la culture française dominante, on a l'impression que c'est très complexe à comprendre. Et donc, on peut légitimement aussi se dire que... qu'en fait, la double culture française et européenne peut-être est compliquée aussi à assimiler. C'est peut-être pour ça aussi. Et dans tous les cas, je pense qu'il y a... C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut quand même travailler, je pense, entre nous avant de parler d'Europe et compagnie, parce que sur plein de sujets il y a plein de sujets de crispation, des sujets sociaux de crispation, et la question de, enfin, on est un des seuls pays qui se questionnait sur l'identité nationale. C'est quoi l'identité nationale? On est un des seuls pays qui a évoqué la déchéance de nationalité. On le seul pays même. Donc c'est qu'il y a peut-être une spécificité française autour de cette identité qui n'est pas définie. Et surtout, la question derrière tout ça, c'est pourquoi ça stresse autant les gens de ne pas avoir une identité définie? Pourquoi on ne se dit pas que l'identité, finalement, c'est fluctuant et c'est la somme ou c'est l'harmonie de toutes les différences en France et ce melting pot qui fait qu'on a une identité? Pourquoi on a besoin... d'être vraiment dans une case avec un portrait bien défini du français ou de la française, et tout ce qui est en dehors, alors soit européen, soit maghrébin, soit africain, soit asiatique et compagnie, c'est trop compliqué. C'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'on n'a pas, c'est qu'on devrait aller voir un psy. Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, et je pense que là où je veux en venir, c'est qu'il y a des travaux à faire, peut-être en passant par l'école, etc., pour aborder tous les pans de l'histoire qui font que demain, les enfants qui sortiront de l'école sauront que l'identité française, elle est multiple. Et je pense qu'effectivement, tant qu'on n'a pas, nous, Français, compris qui nous étions et regardé en face qui nous sommes, on n'arrivera jamais à comprendre ce que c'est qu'être européen. En tout cas, largement. Je ne parle pas de la minorité, parce que c'est quand même ça. Enfin, on regarde la population, je pense qu'aujourd'hui, encore plus qu'il y a quelques années, une minorité qui croit vraiment en l'Europe. Mais en fait, on n'arrive pas à comprendre cette dualité. Parce qu'on ne connaît pas déjà de base les contours de notre identité à nous en tant que Français. Ou plutôt, on veut peut-être pas l'accepter. C'est un peu moi ce que je... C'est un peu ce que je constate. C'est que... Et très souvent, moi je vois, j'ai beaucoup d'amis justement de double culture. Essentiellement effectivement africaine, maghrébine, voilà. Et quand on discute, il y a beaucoup beaucoup d'ouverture. On est plus dans un mindset, un état d'esprit américain, anglo-saxon, ou open, où finalement on s'en fiche d'où tu viens. Et je pense que cette dualité européenne, si elle nous avait été vraiment expliquée, je pense qu'il y aurait eu plus d'Européens peut-être dans les banlieues qu'ailleurs. Parce qu'on est déjà familier avec cette double culture, donc en fait, d'en rajouter une, ça ne nous dérange pas. Au contraire, on n'a pas, on navigue avec cette complexité, avec les différentes langues. Depuis tout petit, que ce soit les langues, c'est-à-dire langue française et langue étrangère, tout comme les langues entre les différents milieux sociaux qu'on traverse, entre TRAP et l'ONU. Donc en fait, la complexité ne dérange jamais quelqu'un qui est de double culture. Elle dérange surtout les personnes qui n'ont pas justement l'habitude de faire, faire cohabiter toute cette richesse.
Europe et Sentiment est né de cette envie de parler d'Europe différemment, de donner à entendre des nouveaux imaginaires et de montrer cette richesse des histoires et des récits personnels et intimes. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Europe et Sentiment est un podcast indépendant et j'ai besoin de vous pour le faire vivre et pour le faire grandir. Alors si vous avez aimé, partagez-le autour de vous, à vos amis, à votre famille, à vos proches. Vous pouvez vous abonner à notre page Instagram ou à notre newsletter, ou les deux, laisser un commentaire sur Spotify, ou mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ou les deux. Cet épisode est un hors-série, il n'appartient à aucune saison, un peu comme un électron libre si vous voulez. Mais pas d'inquiétude, la saison 3 est en préparation pour une sortie prévue début 2024. Écriture, montage et réalisation, Laetitia Chaban. Musique, Arnaud Paskiewicz.